16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont vu le loup. Après Jean de La Fontaine et Sergueï Prokofiev, il est temps, Mathieu, d'évoquer un acteur qui a vu le loup pour de bon et qui est toujours parmi nous. Il n'a pas été mangé par le grand méchant loup. C'est Kevin Costner.
Oui, enfin, toujours parmi nous, à votre grand étonnement, Stéphane, puisque hors antenne, vous me demandiez à quand remonter sa mort.
Il a même fallu
que je vous montre sa fiche Wikipédia pour que vous acceptiez l'idée qu'il était toujours des nôtres. Non, Kevin Costner n'est pas mort. Il n'est juste plus bankable depuis 1992, ce qui à Hollywood est à peu près pareil. Pourtant, il reste dans nos cœurs, car pour quiconque a eu 10 ans en 1990, Kevin Costner, c'est le mâle alpha. L'homme tel qu'il doit être. Avec David, par exemple, on s'est plus construit en tant qu'homme à partir de Kevin Costner qu'à partir de nos propres pères respectifs. Je me revois, une plume sur la tête, jouant dans le champ derrière la maison avec Pépette, la chienne de la voisine, en m'imaginant que c'était un loup, pendant que David, de son côté, une plume ailleurs, parce qu'il a toujours été bizarre, rejouait la scène de Bodyguard où Kevin Costner sauve Whitney Houston en tirant sur les méchants.
Il imitait super mal
le bruit de la mitraillette. Mais une chose est sûre, Kevin Costner était au début des années 90 l'acteur le plus emblématique d'Hollywood. D'où la vague scélérate des Kevin dans les registres d'état civil de par le monde, notamment en Picardie.
Quelle horreur.
Ne jugeons pas, Stéphane, ne jugeons pas. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 55 à Linwood, une petite bourgade ouvrière de la banlieue de Los Angeles. Classe moyenne supérieure, hein. Son père William est réparateur chez Edison, la compagnie d'électricité, sa mère Sharon, assistante sociale. Les Costner déménagent souvent au gré des affectations de papounet. Kevin, lui, est un élève moyen qui se réfugie dans le sport mais aussi la poésie. À l'époque, je m'imaginais pas acteur, je me rêvais plutôt écrivain, raconte-t-il, certainement en négligemment alangui dans un rocking chair avec un verre de brandy dans la main. Après avoir rêvé d'exploits littéraires mais aussi de baseball, Kevin s'engage dans un cursus plus classique, voire chiant, finance et marketing à l'université. Et là, avec David, on frissonne à l'idée que le héros de notre jeunesse aurait pu ne jamais devenir acteur, ne jamais sauver Whitney Houston, ni voler aux riches pour redonner aux pauvres dans la forêt de Sherwood. Oui, Kevin Costner aurait pu devenir commercial. Mais voilà non, car Kevin a quand même cette fibre artistique qui le taraude, il fréquente des ateliers théâtre du campus, et quand il s'engage dans une vie normale en épousant son crush d'adolescence Cindy Silva, actrice promise à un avenir radieux puisqu'elle incarne alors Cendrillon à Disneyland, Kevin sent que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il ne peut pas devenir un salarié comme un autre. Au retour de leur lune de miel, les Costner se retrouvent dans le même avion que le célèbre acteur Richard Burton, qui a la même technique que Stéphane en avion, il achète tous les sièges autour de lui pour être tranquille. Il n'y a que ça si on ne veut pas être dérangé par les cons, dit toujours Stéphane. Richard Burton est bien d'accord.
Comment c'est pas vrai? Comment osez-vous?
Richard est bien d'accord. Plus vous êtes connu, plus vous aimantez les cons. Kevin Costner n'étant pas encore connu en 82, je vous laisse imaginer qui joue le rôle du con dans cet avion. Ça le gêne d'ailleurs, Kevin, d'aborder la star. Mais voilà, et il est un tournant de sa vie. Il hésite toujours entre le frisson de l'expertise comptable et le métier hasardeux de comédien. Je brûlais à l'intérieur parce que j'étais tiraillé. Je n'arrivais pas à faire un choix. Donc, voir Richard Burton comme ça, je me suis dit que c'était un signe. Ma femme ne savait même pas que je me posais des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, raconte Kevin. Qui prend donc son courage à deux mains. « Excusez-moi, monsieur, quand vous aurez un moment, puis-je vous demander un petit conseil ?» Burton le regarde et lui répond « When I finish my book, yes. » Quand j'ai fini mon livre, oui.
Oh non.
Kevin attend donc patiemment que l'illustre Richard Burton termine sa lecture, mais il a de la chance, il était plongé dans Secret d'Histoire, mon cahier de vacances, qui se lit assez vite. Soudain, il repose le livre, fait un signe à Kevin et la discussion s'engage. Intimidé et maladroit, Kevin fait ce qu'il ne faut surtout pas faire quand une star vous accorde quelques minutes de son précieux temps. Il commence à lui raconter sa vie.
J'ai travaillé, moi, pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa.
Finalement, peut-être pour le remercier d'avoir fait office de l'exomime naturel durant ce vol où Richard peinait à trouver le sommeil, le grand acteur encourage Kevin à poursuivre son rêve. Mieux, à la sortie de l'aéroport, la limousine de Richard Burton s'immobilise un instant devant le jeune Costner. La vitre s'abaisse et Burton lui dit « Dis donc, vous n'auriez pas 40 balles pour du popper? Je suis un peu short, j'ai une soirée. » Non, il lui dit pas ça, je vais vérifier que vous suiviez. Non, il lui dit simplement « Good luck, young man ». Et bingo, en 87, la carrière de Costner décolle avec deux films à succès, No Way Out et Les Intouchables de Brian De Palma, dans lequel il interprète le légendaire agent Elliot Ness aux côtés de Sean Connery et Robert De Niro. Cette fois, Kevin Wu est lancé, il est un acteur important, montant et bientôt un réalisateur avec son premier film derrière la caméra, Coup d'essai, coup de bête, puisque ce premier film, c'est tout simplement Danse avec les loups. Au casting, pour le rôle de John Dunbar, Kevin Costner hésite d'abord entre lui-même et un jeune acteur qui démarre aussi, Stephen Byrne. Mais le bout d'essai de Byrne n'est pas méga concluant.
Eurydice, fais le loup. Ouh.
Kevin Costner décide finalement de se choisir lui-même. Danse avec les loups est un quitte ou double pour lui. Un budget de 19 millions de dollars, à l'époque c'est absolument énorme. 18 mois de tournage, dont 5 en pleine nature dans le Dakota du Sud. Le film dure 3 heures, remporte 7 Oscars sur 12 nominations, dont celui de meilleur film, et engrange 424 millions de dollars au box-office mondial. Kevin y incarne donc le lieutenant John Dunbar, qui après une tentative de suicide ratée est envoyé dans un poste frontière au milieu de nulle part. Une fois au milieu des immenses prairies vallonnées, des buffles et des autochtones, il tombe amoureux de la beauté de la nature et du mode de vie amérindien. Un film sublime en forme de rédemption pour cette Amérique qui oublie parfois comment elle s'est construite et surtout à quel prix. Je marque un temps parce que c'est quand même hyper beau ce que je dis. Bon, pas autant que la fois où Stéphane avait dit.
Le roumain, c'est vrai, est une langue magnifique quand elle est parlée par des roumains.
Mais bon, c'était beau quand même. L'histoire du tournage, c'est une plus belle phrase, Stéphane. L'histoire du tournage de Danse avec les loups est belle aussi, figurez-vous. Kevin et toute la production insistent sur le respect et l'authenticité, notamment sur tout ce qui concerne évidemment les Amérindiens et leur représentation. La coiffe du chef indien, par exemple, est modifiée 7 fois afin de coller au plus près à la réalité historique. Au départ, elle finissait par une plume bleue, alors que chez les Comanches, la dernière plume de la coiffe, tout en haut, est toujours verte. Comme dit Stéphane, les Indiens...
C'est comme les poireaux, le bout est toujours vert.
Bien, pour tous les locaux engagés dans l'équipe du film, les contacts occasionnels avec Kevin Costner restent d'excellents souvenirs. Il est gentil, généreux, accessible, et tout le monde l'appelle simplement Kevin. Contrairement à certains animateurs spécialisés d'histoire et du patrimoine qui exigent qu'on les appelle Monsieur ou Votre Majesté sur les tournages. Le directeur de l'hôtel où séjournait la majorité de l'équipe se souvient que tout le staff s'était habitué à la présence sympathique de cette superstar d'Hollywood pourtant si accessible, sauf peut-être cette serveuse qui un matin lève les yeux, aperçoit l'acteur et fonce droit dans un mur, renversant tout un plateau du petit déjeuner. Elle était complètement émoustillée. Et vous savez quoi ? Kevin est venu l'aider à tout ramasser, c'était ça aussi. Kevin Costner. Chaussette, le loup du film, est en revanche moins sympa que Kevin. Il est d'ailleurs interprété par 2 loups différents, Buck et Teddy. Ils se montrent pas toujours très coopératifs sur le tournage. Ils ont des demandes impossibles, comme des moutons ou des enfants frais. Ils arrivent en retard, connaissent la moitié de leur texte et mordent la maquilleuse. Je ne raconterai pas ici la belle relation qui est née entre ces loups et Kevin Costner, car elle est trop précieuse pour être salie une fois de plus par l'incorrigible lubricité de Stéphane Bern, véritable boule de stupre qui avait déjà ruiné le romantisme de mon histoire de la meuf qui s'était mariée à la Tour Eiffel, avec cette réflexion tout en finesse de sinistre mémoire. Stéphane, je vous raconterai une belle histoire d'amour entre une certaine Erika et la Tour Eiffel.
Oh, j'ai hâte que vous nous racontiez la nuit de noces.
Voilà, voilà, les succès suivront pour Kevin, avec notamment Robin des Bois, Prince des voleurs, qui de nombreuses années après reste comme un des meilleurs Robin des Bois, plus fort encore que la version de Matt Pokora au Palais des Congrès.
Être seul, être sans.
Quelle horreur.
Ne jugeons pas, Stéphane, ne jugeons pas, on adore Matt Pokora. Bon, moi aussi j'ai préféré la version de Kevin, même si c'est dommage, on a appris que la scène où il est tout nu sous la douche, c'est pas vraiment lui qui est tout nu. Nous sommes en 91, Kevin Costner prend les loups par la patte, les Indiens par les plumes, il prend aux riches pour donner aux pauvres, et surtout, il prend Whitney Houston. Selon Dolly Parton, c'est à Kevin Costner, qui était aussi le producteur du film Bodyguard, qu'on doit la présence de cette chanson mythique « I will always love you » dont « I will love you »« I will always love you » dans le film. Il était fan de la chanson, la version originale, celle de Dolly Parton en 73, donc il a demandé à Whitney si elle pouvait l'enregistrer, il était à fond. J'ai dit qu'il fallait également la chanter a cappella au début, j'avais besoin qu'elle commence a cappella parce que ça montre à quel point elle aime ce mec, au point de chanter sans musique. Si jamais je croise un jour Kevin, je lui expliquerai qu'il n'y a pas besoin d'aimer follement quelqu'un pour chanter sans musique. Il suffit d'être bourré. Stéphane, démonstration.
Toute première fois.
C'est QFD. Bodyguard, en tout cas, vient conclure les 2 meilleures années de la carrière cinématographique de Kevin. La suite ressemble plutôt à une gentille déroute. Hein. Les amateurs de jeux de mots se réjouissent du fait que le film Waterworld prend l'eau. Scénario douteux, décor qui brûle, désaccord avec le réalisateur qui se barre en plein montage. C'est un four monumental pour Kevin Costner, dont la côte chute à Hollywood. Pour s'occuper, durant sa traversée du désert, Kevin monte un groupe et se produit sur des petites scènes. Ça, c'est, par exemple, c'est notre Kevin. Je dis que ça s'écoute. Hein. C'est pas pire que Stéphane chantant du Jeanne Masse, en tout cas. Bref, la carrière de Kevin connaît un coup de mou.
On ne sait toujours pas comment il est mort.
Je vous le répète, Stéphane, Kevin Costner n'est pas mort. C'est pas parce qu'on ne le voit plus que quelqu'un est mort. Je sais que c'est dur à comprendre pour vous, mais il y a une vie hors des écrans. Des écrans où Kevin apparaît toujours. Hein. Je suis dur dans la série Yellow House et même sur Netflix dans The Highwayman, même si je dois avouer que mon algorithme ne me l'a pas proposé. Donc, non, Kevin Costner n'est pas mort. Il se fait juste plus discret depuis quelques années, n'en déplaise à Stéphane, qui ne comprend pas comment on peut être au top un jour et dans l'ombre le lendemain, comme le prouve cet échange extrait de notre dernière coupure pub.
Et une dont on n'entend plus du tout parler, c'est Britney Spears.
Mais Britney Spears, je t'ai fait le portrait ici, elle est séquestrée par ses parents.
Mais, oui, mais elle ne chante plus.
Parce qu'elle a des problèmes psychologiques.
Mais elle peut chanter avec des problèmes psychologiques. Regarde, celle-là, elle chante.
On embrasse Sheila, Stéphane, elle adore l'émission. Ça lui fera plaisir. Oui, moi aussi, en plus. On peut être vache parfois comme
mais
ça.
Oui, mais surtout vous.
Mais pourquoi vous sentez obligé toujours de débailler comme ça dans votre récit des piques contre moi? Je vous ai rien fait, Mathieu.
Mais si, vous m'avez fait des choses que je ne peux pas révéler à l'antenne. Bah déjà, vous m'avez lancé dans ce métier de fou.
Ben oui, mais c'est pas une raison pour m'en vouloir.
À chaque fois, vous le paierez jusqu'au bout.
Europe 1, historiquement vôtre.